un autre jour spécial. Un autre jour de la belle fête de Dieu qui veut nous encourager en nous faisant rêver des belles choses qu'il a à réserve pour chacun de ses fils et de ses filles qu'il appelle actuellement. Le titre de mon message aujourd'hui, le gouvernement du monde de demain. Le gouvernement du monde de demain. Nous célébrons en fait, au cours de cette fête, l'établissement tout proche d'une société entièrement nouvelle et entièrement différente. On n'imagine pas à quel point, mais entièrement différente de celle où nous vivons, qui sera placée sous un seul gouvernement. Et déjà là, ça va régler une partie de nombreux problèmes du monde, parce qu'actuellement, vous n'avez pas d'autorité suprême vers laquelle les pays qui sont en conflit peuvent se tourner pour avoir de l'aide. Et c'est pour ça que souvent les conflits se terminent en guerre, parce qu'il n'y a personne qui dirige, dans le fond. Tout le monde a son propre gouvernement, a ses propres intentions, et ce qui va se produire quand le Christ sera là, c'est qu'il y aura une autorité juste qui pourra trancher des questions. Il sera le juste juge qui va régler les conflits entre les nations. Donc, un seul gouvernement. Comme M. Winston Goss a mentionné hier, au moment où je vous parle, sur la planète, il y a 20 sortes de gouvernements différents, y compris la démocratie dans de nombreux pays. Vous savez, au cours de toute l'histoire, les êtres humains ont cherché désespérément à trouver une forme de gouvernement qui leur apporterait sécurité, abondance, paix. Ça a été une recherche sans fin tout au long de l'histoire, mais ils ont été incapables d'y arriver. Ça a été en vain. Et vous avez des grands penseurs qui ont travaillé très fort de leur côté tout au long de l'histoire pour proposer des solutions. Vous avez eu Platon, Karl Marx, Lénine, des gens comme ça, des gens du côté religieux aussi comme Saint-Augustin, qui ont apporté toutes leurs théories. Et ça a donné ce que ça a donné au cours de l'histoire. Les essais ont été très malheureux. Il y a un exemple clair de ça. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Quand Hitler a voulu établir un royaume qui allait durer combien? 1000 ans. 1000 ans. Où est-ce qu'il a pris cette inspiration? Du petit prince de ce monde qui connaît les Écritures, qui les a citées au Christ et qui a inspiré ce tyran-là d'avoir ce rêve impossible à réaliser par des humains, mais que lui a voulu réaliser. C'était une contrefaçon encore de la vérité de Dieu. Alors cet essai-là a été désastreux, comme on sait. Et la prochaine tentative humaine, et la dernière qui va se produire, elle est en préparation actuellement. C'est la 7e résurgence de l'Empire romain, et heureusement la dernière. Et nous savons par ce que le Christ nous a mentionné dans Matthieu 24, verset 22, que cette dernière tentative des humains de se former un gouvernement qui réglerait tous les problèmes sera la tentative la plus désastreuse et la plus terrible de toute l'histoire. Parce que le Christ nous a mentionné dans Matthieu 24, verset 22, « Si ces jours n'étaient abrégés, les jours de la grande détresse, si personne n'intervenait pour mettre un terme à ça, il dit « Personne ne serait sauvé, personne n'aurait la vie sauve, personne n'en sortirait vivant. Mais à cause des élus, à cause de vous et de moi, si nous sommes fidèles. » Il dit, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il va mettre un terme au dernier moment à cette histoire malheureuse. Mais les serviteurs fidèles de Dieu, pendant cette époque, eux, selon les promesses du Tout-Puissant, seront amenés à un lieu de protection, sous l'aile de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu aura en fait laissé l'humanité aller jusqu'au bout de sa folie. Jusqu'au bout de sa folie. La folie humaine qui a commencé, dans le fond, avec Adam et Ève. Parce que quand Adam et Ève ont décidé de choisir par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, au fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rejeté le gouvernement de Dieu. C'est ça. Ils ont rejeté Dieu, ses lois, son gouvernement. Alors voyez-vous que la folie humaine dont nous connaissons les désastres au cours de l'histoire, parce que les hommes ont essayé eux-mêmes de se former toutes sortes de gouvernements qui n'ont pas donné de résultats, c'est que cette folie humaine-là a commencé dès le début et elle s'est continuée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que les humains ont travaillé si fort pour se bâtir toutes sortes de systèmes imaginables en pensant réussir à bâtir un monde heureux, ce qu'ils n'ont jamais pu faire. Ils ont bâti des systèmes humains sur des sables mouvants. Au lieu de bâtir un système avec Dieu sur le rocher des siècles, sur la pierre angulaire de tout le plan de Dieu, sur le Christ. Et c'est pour ça que le monde présent, notre société actuelle, elle s'en va vers sa disparition, de toute évidence. Disparition, non pas partielle, mais totale. On a un peu de difficulté à s'imaginer que tout ce qu'on voit n'existera plus, parce que pour nous, c'est comme réel quand même, là. Mais tout ça va disparaître. Et j'aime à préciser une chose ici, c'est que le Christ ne gardera absolument rien de l'actuelle société. Pas besoin de vous y reporter, je vous donne une référence, vous pouvez la noter, vous vérifierez vous-même. Ce qui est mentionné là, ce que le Christ a inspiré Jérémie d'écrire, Jérémie 51, verset 26. Le Christ a inspiré Jérémie de dire ceci concernant le monde qui va changer, qui va disparaître, notre société actuelle. Il dit, on ne tirera de toi, de la société humaine actuelle avec tous ses systèmes, on ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre de fondement, car tu seras à jamais une ruine. Donc, il est clair par cette déclaration-là que le Christ ne gardera rien de cette société. Heureusement. Reportez-vous à 1 Jean, s'il vous plaît. 1 Jean. L'apôtre Jean nous met en garde, justement, de ne pas se fier, de ne pas compter sur la société présente parce qu'elle est en voie de disparaître. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, pas quelque chose limité, il dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père. Ce n'est pas le monde de Dieu, on le sait. C'est le monde de l'adversaire, mais vient du monde. Et regardez le verset 17. Et le monde passe. C'est ce que je vous affirme. Et que le monde passe. Et sa convoitise aussi. Tout ça s'en va. Mais, et là ça parle de vous, vous êtes ici à faire la volonté de Dieu. Et les enfants de Dieu veulent plaire à Dieu, même s'ils ne sont pas encore parfaits. Ils sont en voie d'y aller. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, qui s'applique à le faire, lui demeure éternellement. Voici ceux fondés sur le rocher des siècles qui s'en vont vers la vie éternelle. Alors voyez-vous, on ne doit pas s'attacher à ce monde. Absolument pas. On ne doit pas y croire non plus. Il n'y a pas de solution qui vont venir de là. C'est un mirage. C'est un mirage temporaire. On ne peut pas compter sur lui. On peut compter sur le grand gouverneur de l'univers et sur notre grand frère qui nous a tellement aimés. Nous, notre rêve du millénium, du premier millénaire du règne du Christ ne tournera jamais au cauchemar. Il ne tournera jamais au cauchemar. Au contraire, par la puissance du souverain de l'univers, ce gouvernement mondial divin sera heureux. On le voit à plusieurs endroits dans la Bible. Et ce gouvernement-là connaîtra un accroissement sans fin. Ça, c'est difficile à imaginer. Mais c'est la réalité. Reportez-vous à Ésaïe, le 9e chapitre, où il est justement question de ça. Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Et c'est fascinant parce que ici, il est question du gouvernement et de la paix qui sera sans fin. Le gouvernement va se développer et il y a des choses qui nous attendent qui ne sont pas toutes mentionnées, toutes précisées. Mais en même temps, on a appris par la science que l'univers physique, lui aussi, est en expansion. Continuellement, ça va comme en parallèle avec le gouvernement de Dieu qui sera en expansion. Regardez le verset 5 où il est question du Christ lors de sa première venue. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. » Et dans le texte original, c'est « le gouvernement » ou « la gouvernance reposera sur son épaule. » Ce sera le roi des rois. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, parce que c'est lui qui a donné la vie à Israël, prince de la paix. Et maintenant, j'arrive à cet accroissement sans fin du royaume et de l'univers. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voyez-vous cet accroissement? L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant, à partir du moment où Christ viendra, et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. C'est formidable. Et pourquoi il parle de justice au point de départ? Parce que pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut au point de départ que la justice soit établie. Quand il y aura vraiment justice de la part de Dieu, les gens vont être paisibles. Parce que ces lois-là sont des lois qui aident à vivre en harmonie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. La justice de Dieu sera établie. Reportez-vous à Ézéchiel maintenant, chapitre 13, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 13. Je vais vous montrer ce que Dieu a planifié de faire par rapport à tous ceux qui nous induisent en erreur dans la société. Parce que vous savez, il n'y a aucune philosophie humaine. Il n'y a aucune religion du monde qui peut régler les problèmes de l'humanité et apporter le bonheur. Comme il n'y a aucun système politique non plus qui peut régler les problèmes. On le sait, les gens changent de gouvernement régulièrement. Et ça ne règle rien. Et il n'y a aucune technologie, même si c'est intéressant, comme la science d'ailleurs, ça ne peut pas apporter le bonheur aux êtres humains. Ça peut apporter certains conforts ou des découvertes intéressantes, mais ça n'apporte pas le bonheur, ni la paix intérieure, ni le vrai bonheur. Ce qui arrive, c'est que sous l'influence du petit Dieu de ce siècle, où les humains, dans leur folie, se sont placés depuis le début, les faux prophètes au cours de l'histoire. Et j'inclus là-dedans, bien sûr, les philosophes qui ont tracé la ligne à toutes les formes de gouvernement et les penseurs religieux aussi, qui ont mis leur grain de sel dans le même sens. Tous ces faux prophètes, aux prédictions puis aux annonces mensongères humaines, ont trompé l'ensemble de l'humanité. C'est ça. Ont trompé l'ensemble de l'humanité. Et regardez ce que Dieu dit à ces gens-là ici. Ézéchiel 13, le début du verset 9. « Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. » Alors, il définit vraiment la nature de ceux qui ont induit l'humanité en erreur sous l'influence de Satan. Regardez le verset 10 maintenant. Comme Dieu va intervenir pour châtier ces gens-là, il dit « Ces choses arriveront, verset 10, parce qu'ils égarent mon peuple en disant « paix » quand il n'y a pas de paix. Quand ils disent « abondance » quand il n'y a pas d'abondance. Et plus les partis politiques se succèdent, plus ils promettent d'avoir de l'abondance et de la paix, n'est-ce pas vrai? Et même les dictateurs essaient de procurer la paix, mais ils procurent leur paix et leur bien-être, et non pas celui des gens. Alors Dieu dit, ces choses arriveront, parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Tout dernièrement, en fait, la Associated Press rapporte une déclaration du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a fait une constatation épouvantable dans l'importance de sa teneur puis dans sa réalité. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré dernièrement, en parlant de l'humanité, là où on est rendu, « Nous sommes prisonniers d'un dysfonctionnement mondial colossal. » C'est lourd de conséquences, là. Cet homme-là constate qu'on est en prison dans un problème où il n'y a pas de solution. Il dit « Nous sommes prisonniers d'un dysfonctionnement mondial colossal. Notre monde est en péril et paralysé. » On voit que les gouvernements ne peuvent plus trouver de solution. Nous sommes rendus à ce point. Et là, M. Guterres a mentionné la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, les changements climatiques désastreux, la flambée des prix de l'énergie, les pénuries alimentaires, la désinformation, la haine, la multiplication des problèmes planétaires en termes de santé. Alors, c'est un constat d'échec de la part du secrétaire général de l'ONU. Et je vous rappelle que l'ONU a été fondée après la Deuxième Guerre mondiale avec des buts bien précis. Premièrement, d'assurer la paix. Et deuxièmement, un développement durable à l'humanité. Leur objectif n'a pas été atteint. Et le constat d'échec, c'est que l'ONU est devenue et a pratiquement toujours été une coquille vide qui n'a jamais pu atteindre son but. C'est encore une autre formation humaine de tentative de solution. Exactement. Continuons ce que Dieu mentionne ici. Il dit, dans la dernière partie du verset 10, « Et mon peuple, la société actuelle, et en particulier les nations israélites, mon peuple bâtit une muraille. Il se fait des systèmes. Et eux, les penseurs, les dirigeants politiques, religieux, la couvrent de plâtre. » Voyez-vous comment c'est solide? Alors, les gens se font des systèmes et les dirigeants la couvrent de plâtre comme si ça allait mieux, comme si ça allait devenir meilleur. C'est un peu comme un décor de film, de cinéma. C'est une façade, tout simplement. Ce n'est pas solide et il n'y a pas de substance à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, « Et mon peuple bâtit une muraille et eux la couvrent de plâtre. » Et après, il dit au verset 14, « J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. » Autrement dit, votre société, avec tous ses systèmes, il va falloir que je l'abatte pour mettre place, en lieu et place de ça, à une nouvelle société qui, elle, sera juste et qui va donner des résultats. « J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher à terre et ses fondements seront mis à nu. » C'est ce que je vous mentionnais au début. Dieu ne gardera rien de la présente société. Et ça se comprend. Ce n'est pas le monde de Dieu. Le monde de Dieu sera totalement différent. On n'a pas idée. On entrevoit. Mais c'est à un degré tellement minime. Mais même ce degré minime que Dieu nous donne d'entrevoir est tellement encourageant. Alors imaginez la suite. Quand nous serons rendus. Allez au chapitre 22 du livre d'Ézéchiel, un petit peu plus loin. Ézéchiel, chapitre 22. Et là, vous allez voir, dans Ézéchiel, chapitre 22, Dieu décrit ici trois groupes de dirigeants de la société actuelle qui induisent le monde entier en erreur. Le premier groupe, ce sont les prophètes menteurs. Ce sont les philosophes, les penseurs intellectuels ou religieux qui inventent toutes sortes de solutions qui ne fonctionnent pas. Les influenceurs, on les appelle comme ça aujourd'hui, les influenceurs. Et regardez ce que Dieu dit de ces gens-là, Ézéchiel 22, le verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre. Donc, tous ces penseurs-là essaient de prétendre que les choses vont pas si mal et qu'elles vont aller mieux avec leurs idées. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre. De vaines visions, c'est vide, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a pas parlé. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'eux et du petit Dieu de ce siècle. Alors ça, c'est le premier groupe de dirigeants auquel Dieu fait allusion ici. Le deuxième groupe, ce sont les sacrificateurs, les enseignants religieux, ceux qui sont en charge des religions du monde. Ézéchiel 22, verset 26, juste un peu avant. Ces sacrificateurs, ça, ce sont les enseignants religieux, violent ma loi. Ils sont contraires à Dieu, ils violent la loi de Dieu et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils n'enseignent pas la vraie enseignement biblique. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Et c'est ce que vous voyez dans l'ensemble des religions du monde. Alors, c'est le deuxième groupe dont Dieu parle ici en disant qu'ils vont intervenir pour les secouer énormément. Et le troisième groupe qu'il décrit ici, on le voit au verset 27, ce sont les administrateurs de la société moderne, les chefs de la société qu'il appelle les princes. Regardez le verset 27. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les armes pour assouvir leur cupidité. Au fond, ils cherchent à s'enrichir, ils cherchent la gloire et ils gouvernent pour eux-mêmes. Toujours en disant que c'est pour le mieux de la population. On sait ce que ça donne comme résultat. Maintenant, la nouvelle intéressante est où vous avez un rôle à jouer en vous préparant, mais où vous aurez un rôle à jouer quand le Christ reviendra, c'est que Dieu va remplacer ces trois groupes-là par des gens selon son cœur, par les membres fidèles de sa famille, qui seront rendus parfaits et immortels, parce que ce sera un gouvernement permanent, avec des lois permanentes. Voyez-vous, il n'y aura plus à ce moment-là de philosophes puis de penseurs religieux pour inventer toutes sortes d'idées et de théories qui ne mènent nulle part. Les idées qu'on va mettre de l'avant, ce sont les paroles de Dieu. Alors, c'est simple, ce sera établi. Il n'y aura plus de réunion pour dire quelle loi qu'on va faire, quelle loi qu'on va amender, quelle loi. Non, la loi de Dieu, elle est là. Et on n'aura plus besoin de ces penseurs-là. On va refléter la pensée de Dieu, point. Et vous et moi, nous allons occuper les deux autres rôles dont je vous ai parlé tantôt. C'est que nous occuperons la double fonction. Un, de sacrificateur, c'est-à-dire enseignant de la loi qu'on est en train d'apprendre et de mettre en pratique dans nos vies. Et l'autre fonction, celle de roi, c'est-à-dire d'administrateur. On aura une double fonction. Il n'y aura pas de séparation entre la religion et l'État. OK? Et ça, c'est confirmé. Allez voir dans Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 2. Verset 10. Pour Dieu, c'est comme si c'était fait. Il reste, nous, notre part à tenir, là, pour tenir ferme. J'ai tellement aimé la sermonnette de mon ami, monsieur Jean-Jacques Augustin tantôt, que je connais depuis des années, qui est en Haïti et qui nous a parlé avec un tel enthousiasme de ce qui vient et qui nous a invités à rester fermes. Si nous restons fermes pour Dieu, c'est déjà classé. C'est seulement notre part qui reste à jouer pour nous assurer, nous, d'être là. Parce que regardez ce que Dieu dit de vous et de moi si nous sommes fermes, comme M. Augustin l'a si bien souligné. Il dit, tu as fait d'eux un royaume. Première fonction. Des rois. Sous le roi des rois. Deuxième fonction. Et des sacrificateurs. C'est-à-dire des enseignants. Pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Très clair. Le plan de Dieu est simple, clair, tellement enthousiasmant. Donc, chacun de nous aura cette double responsabilité. Enseigner les lois de Dieu et gérer, administrer 2 villes, 5 villes, 10 villes, une région plus grande. C'est ce qui est mentionné ici. Et nous allons administrer, gérer la chose publique selon les lois de Dieu, tout simplement. Alors, comprenez-vous qu'il n'y aura plus de discussion à plus finir, puis de formation de partis qui se divisent et se subdivisent pour avoir raison, parce que la loi sera établie et la façon de procéder sera la même ensuite pour tout le temps. C'est formidable. Alors, ce sera selon les lois divines. Alors, voyez-vous qu'il y a des activités enthousiasmantes qui nous attendent. Ce n'est pas précisé en détail dans la Bible. Dieu est comme un bon papa là qui nous donne des éléments importants pour nous encourager, mais il dit, attendez les enfants, vous avez rien vu encore. Quand vous serez rendus, j'ai beaucoup d'autres choses à vous révéler dans les responsabilités que vous allez avoir et dans la joie puis le bonheur que vous allez avoir à aider les autres personnes. Puis à bâtir justement ce monde nouveau que Dieu a en tête. Maintenant, je veux faire une parenthèse ici qui est importante à faire. Face à nos postes futurs, il y a des gens dans l'Église, et c'est normal, qui se posent des questions, qui disent à un moment donné, comment moi je vais pouvoir faire ce que vous dites? Comment moi, qui n'ai pas de compétences particulières, ni d'expérience pour administrer la chose publique, ni pour enseigner les lois de Dieu, comment moi je vais pouvoir occuper ces doubles fonctions-là? C'est des questions que les gens parfois se posent et qu'ils nous posent. C'est pour ça que je veux préciser aujourd'hui des choses importantes pour encourager nos gens. Il y a des gens qui disent, j'ai jamais eu, moi, l'occasion d'occuper des postes importants dans ma vie. J'ai jamais eu l'occasion de diriger l'entreprise. Je suis presque pas allé à l'école. J'ai toujours mené une vie très simple. Et c'est logique de poser la question. Mais vous allez voir que la réponse, elle est aussi logique également. Puis elle est divine dans le sens que ça fait partie du plan de Dieu. Sachez que si c'est votre cas, que vous avez ce souci-là ou ces questions-là, pour Dieu, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Il y a des gens dans l'Église, bien sûr, c'est pas la majorité, mais il y a des gens dans l'Église qui ont dirigé des entreprises ou qui en dirigent encore. Il y en a. Il y en a eu au début de l'histoire du Nouveau Testament. Je pense à Lydie, par exemple, qui était marchande de pourpre. Vous pouvez aller voir ça dans Acte 16, verset 14, si vous voulez vérifier. C'est une dame dans l'Église, Acte 16, verset 14. La Bible dit qu'elle était marchande de pourpre. Elle avait une entreprise de tissu. Parfois, on passe vite là-dessus, puis on voit pas tout ce que ça implique. Mais cette dame-là avait une entreprise. Il y en a un autre aussi qui m'a surpris en faisant ma recherche. Je m'étais jamais arrêté à ça. Il y a un homme dans l'Église, au début de l'Église du Nouveau Testament, vous verrez ça dans Romains 16, verset 23. Romains 16, verset 23. Un monsieur qui s'appelle Éraste. Et vous savez, qu'est-ce que cet homme-là avait comme responsabilité? Il était trésorier de la ville de Rome. C'est un membre de l'Église. Vous irez voir, c'est marqué dans la Bible. Il était un membre de l'Église. Donc, il y en a qui ont occupé des fonctions. Il y en a encore qui occupent des fonctions. Il y en a qui ont été des professionnels, comme il y en a dans l'Église encore qui sont des professionnels. On a des médecins dans l'Église. Il y a Luc, qui a écrit l'Évangile de Luc, qui est un médecin, qui était en même temps versé du côté histoire. C'est lui qui a écrit les Actes des apôtres aussi, mais il était médecin de profession. Dieu les a pas appelés pour ça. Mais Dieu va sans doute utiliser ce qu'ils ont développé, peut-être comme attitude pour servir les gens. Dieu va peut-être utiliser ça dans le monde à venir. Mais, et là je vais plus loin, ce n'est pas pour ça que Dieu les a appelés. Absolument pas. Absolument pas. Dieu les a appelés pour la même raison qu'il vous a appelé vous. Pour la même raison qu'il vous a appelé vous. Pas à cause de votre profession, pas parce que vous avez été ou non dirigeant d'entreprise, pas ou parce que vous avez administré des choses. Pas du tout. Absolument pas. Et quel que soit votre âge, quel que soit votre état de santé, quel que soit ou quel qu'ait été votre métier, quel que soit votre degré de scolarité, ça n'a pas d'importance pour Dieu, en réalité. Ce n'est pas ça, vous allez voir. Dieu les a appelés, ces gens-là dont je vous ai parlé, pour la même raison qu'il a appelé dans le passé un très jeune homme appelé David, qui était un petit berger. OK? Vous allez voir où je veux en venir avec tout ça. David était un petit berger, sans études académiques, sans expérience aucune dans la gestion d'entreprise ou dans l'administration publique. OK? Le petit berger David, Dieu l'a appelé. Parce qu'on sait par les textes que Dieu regarde au cœur. Dieu cherche d'abord une attitude de cœur chez tous ceux qu'il appelle. Que ce soit des gens de grande expérience ou de peu d'expérience, âgés, jeunes. Non, Dieu regarde au cœur. Dieu, en fait, choisit des personnes selon deux critères majeurs. Dieu choisit des personnes qui sont disposées à prendre soin des autres. Et c'est important ce que je vous dis. Dieu choisit des personnes qui sont disposées à prendre soin des autres. Et si vous êtes là, il y a des chances que ce soit votre cas. Vous êtes peut-être en train encore de le développer. Mais c'est une des caractéristiques majeures que Dieu recherche chez des gens et pour la raison pour laquelle il les appelle, il les choisit. Il faut que ces gens-là soient disposés à prendre soin des autres et, bien sûr, à faire sa volonté. Les deux critères de base. Dans le fond, c'est aimer Dieu comme soi-même, aimer Dieu en premier, puis aimer son prochain comme soi-même. Si on résume, ça revient à ça. Et regardez comment c'est clair, ce que je suis en train de vous expliquer, concernant David. Allez au psaume 78, s'il vous plaît. Psaume 78. C'est clairement précisé dans ce psaume-là les raisons pour lesquelles Dieu a choisi David. Psaume 78, on va commencer à lire au verset 70. Et regardez bien, « Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. » Il est allé le chercher dans les étables, dans les champs. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple. Et vous allez voir, il y a un lien direct entre le fait de s'occuper des brebis et de s'occuper du peuple de Dieu. Et Israël, son héritage, verset 72, « Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. » Pourquoi? Parce qu'il a supplié Dieu de l'aider et qu'il s'est appliqué à faire sa volonté, même s'il n'était pas parfait. Il a pu diriger toute une nation de bonne façon parce qu'il se repentait quand il se trompait. Il demandait à Dieu de lui aider. Il lui a été fidèle, il a été ferme, et Dieu était avec lui pour qu'il dirige bien son peuple. Voyez-vous? Mais pourtant, son curriculum vitae ou sa feuille de route quand il a été appelé, c'est qu'il était berger. Il avait soin des moutons dans les champs et dans les bergeries. Et son expérience avec les brebis, ça a été la base de son expérience concluante de prendre soin du peuple de Dieu. Ça l'a préparé à prendre soin des gens de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la même approche que de prendre soin des petites brebis. C'est ça, c'est l'attitude et le soin à prendre des autres, que ce soit des petites brebis ou que ce soit des brebis humaines que Dieu appelle. Qu'est-ce qu'il faut? Fallait qu'ils fassent. Fallait qu'ils les nourrissent. De voir à ce qu'ils aient à manger ce dont ils avaient besoin. Souci des autres. à une toute petite échelle. Il fallait qu'ils les connaissent. La Bible dit « connais tes brebis ». C'est ça. Il fallait qu'ils les connaissent. Et moi, je sais, parce que j'ai grandi sur une ferme aussi, je me rappelle comment mon frère le plus vieux sur la ferme avait soin de chacune des bêtes, chacune des vaches qu'on avait. Parce qu'ils n'ont pas le même caractère, on va dire, entre guillemets. Ils n'ont pas la même personnalité. Chaque animal est différent. Et c'est pour ça que la Bible dit « connais tes brebis ». Connais les animaux dont tu prends charge et que tu dois prendre soin. Alors, David faisait ça, il a connu ses brebis et il y a des approches différentes avec une ou avec l'autre. C'est au niveau des animaux, mais c'est la même chose en ce qui concerne prendre soin des humains. David devait les guider, les amener dans des bons pâturages, tout simplement. Les soigner, parce qu'il y a parfois des maladies ou des blessures. Alors, voyez-vous comment c'est de prendre soin là en détail, jour après jour, de ces petites brebis-là qui a été un entraînement pour lui. Il fallait aussi qu'il les protège contre les loups, contre les ours, comme il mentionne. Il fallait qu'il les défende. Et il fallait aussi, si vous avez déjà travaillé sur des fermes avec des animaux, il fallait que David les rassure parfois. Et les brebis ont besoin d'être rassurées. Comme les animaux qu'on avait sur la ferme, parfois certains avaient peur, étaient stressés dans certaines circonstances. Il fallait les calmer, et c'est ça, les connaître, observer leurs besoins et réagir en conséquence. Et c'est la même chose que vous et moi, nous aurons à faire dans le monde de demain. Dieu nous a pris où on était et Dieu va nous donner la force de faire ce qu'il faut puis d'apprendre les choses qu'on doit apprendre. Mais si on apprend maintenant à avoir soin des autres, qui que ce soit, certaines personnes dans l'Église, la plus grande expérience qu'ils ont eue, puis c'est une expérience extraordinaire, c'est d'élever des enfants. C'est le même principe. En prendre soin, les nourrir, les connaître, voir les besoins, réagir. Voyez-vous, c'est la même chose. Alors, la petite maman ou le père qui ont vraiment pris soin de leurs enfants, comprenez-vous qu'ils vont être capables de prendre soin des enfants de Dieu dans une autre dimension. En plus, quand ils seront rendus parfaits et qu'ils seront êtres totalement spirituels, capables de ne jamais se tromper, c'est fantastique. Voyez-vous la dimension de ce qui nous attend et la joie qu'il y aura à être capable de mettre ça en pratique. D'ailleurs, je vous donne cet exemple-là en passant. C'est qu'il y en a un autre qui a appris de la même façon que le roi David. C'est Moïse. Moïse a été des dizaines d'années comme berger. Il est allé à la même école que David. Exactement. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dirigé la nation d'Israël. Absolument. Alors, voyez-vous la relation qu'il y a entre les deux? Alors, et pourquoi Dieu appelle? Dieu regarde au cœur. Et Dieu appelle des gens qui sont disposés à prendre soin des autres et à vivre selon ses lois. Quel qu'a été notre passé, même si notre passé a été tumultueux, difficile, même si on a été maltraité ou tout ça, Dieu dit, moi, je vais faire en sorte que ces choses-là disparaissent et ne soient pas un empêchement pour me servir maintenant et pour servir les autres dans le monde de demain. D'ailleurs, au contraire, certaines personnes ici ont passé des expériences terribles dans leur jeunesse, par leurs parents ou par d'autres. Mais ces expériences-là, là, Dieu va s'en servir. Parce que vous êtes ici pour apprendre les lois de Dieu, vous êtes en train de l'apprendre. Alors, les choses difficiles que vous avez vécues, vous allez pouvoir aider des gens qui auront passé par des choses semblables. Dieu ne perd rien non plus du bagage qu'on peut avoir accumulé. Absolument. Alors, je reviens à ça de toute évidence, et là, on s'en va vers ça, c'est que la société actuelle, elle tire à sa fin. Le royaume de Dieu, son gouvernement, sera bientôt, très bientôt, établi sur cette terre. Allez à Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Très beau passage ici. Daniel, chapitre 2, on va lire les versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois, là ici, il parle des rois du temps de la fin, les 10 qui vont donner leur autorité et leur puissance à la bête, à l'Empire romain ressuscité, la dernière résurrection de l'Empire romain. Et il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, stable à jamais, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Et il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. On revient à ce que je vous ai dit au début, ça va effacer tout ce qui existe comme système humain. Mais ce royaume-là va être établi et va durer éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et là, il fait référence au rêve, au songe que Nebuchadnezzar avait eu d'une grande statue qui décrivait les quatre grands empires qui se sont déroulés au cours de l'histoire, dont il reste seulement la dernière résurgence de l'Empire romain, la septième à intervenir, avant que tout ça soit détruit et disparaisse. Et cette grande pierre-là, sans le secours d'aucune main, elle venait du ciel, elle venait de la puissance de Dieu. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et ce qui est fantastique, c'est que la grande pierre dont je vous parle ici, c'est le Christ. C'est la pierre angulaire de tout le plan de Dieu, qui est appelé ailleurs le rocher des siècles. C'est sur lui que tout repose. Et ce gouvernement-là sera parfait, sera permanent, et il va remplacer toutes les autres formes de gouvernement, y compris la démocratie que nous connaissons ici dans le pays. Vous savez, je fais une petite pause ici, c'est que dans une démocratie, qui mène? Ce sont les gens qui mènent. C'est une démocratie. Ce sont les gens qui votent pour élire un gouvernement ou des dirigeants. Ils choisissent par vote. Et les dirigeants, ensuite, ce sont eux qui font les lois. Dans le monde à venir, on n'aura pas besoin de faire de lois parce qu'ils sont faits, les lois. Okay? Et après, dans les parlements, les gens se chicanent pour amender les lois et faire de nouvelles lois, et ensuite pour ne pas les respecter ou pour trouver un moyen de passer à côté. OK? Comme on voit à plusieurs reprises. Je me rappelle, dans le temps, il y avait passé une loi à Québec pour la protection du territoire agricole. Là, on passe toutes sortes d'amendements pour être capable de passer à côté de la loi. Et c'est ceux qui font les lois qui font ça. Mais on ne verra pas ça dans le monde de demain. Les lois vont être immuables. Ceux qui vont administrer selon les lois qui sont déjà faites. Actuellement, qu'est-ce qui arrive quand les gens choisissent leur gouvernement? C'est qu'ils choisissent ceux qui leur promettent le plus de choses. Vrai ou pas vrai? C'est ça. Ceux qui leur promettent le plus de choses sont les plus populaires. Même si en même temps, ce sont parfois les moins réalistes. Et si souvent, ce sont les moins honnêtes. Parce que plusieurs d'entre eux, en faisant leurs promesses, savent très bien qu'ils ne pourront pas les accomplir. Et aussitôt qu'ils sont rendus dans le gouvernement, là, on trouve toutes les raisons pour dire on ne peut pas le faire pour telle et telle raison. Et souvent, c'est la faute du gouvernement d'Allan. On trouve des boucs émissaires de cette façon-là. C'est le système de la démocratie, absolument. Et comme M. Armstrong nous expliquait si bien, la démocratie contient la semence de sa propre destruction. Oui, parce que la démocratie, c'est la division de la division. Les partis politiques, regardez, quand il y a une convention pour la chefferie d'un parti politique, les candidats s'entretuent dans le même parti. Ils s'accusent, ils trouvent des formules pour abaisser l'autre, pour être élu. Ça, c'est dans le même parti, là. Et après, vous avez différents partis qui travaillent pour la province ou pour le pays. Ça va bien, OK? Et le but des autres partis qui sont dans l'opposition, c'est de prendre le pouvoir. La loi de prendre, hein? Prendre le pouvoir pour être incapable de faire les changements qui doivent s'opérer. Mais je vois de l'autre côté de la situation. Parlons des électeurs. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre, les électeurs? Est-ce qu'ils veulent entendre la vérité? Pas du tout. Ils veulent entendre ce qui est agréable. Ils veulent entendre ce qui plaît. Ils veulent avoir des espérances, même s'ils savent que ça va être déçu. C'est ça, c'est la réalité. Ce sont tous des êtres humains. Absolument. Il faut vraiment qu'on soit changé totalement pour avoir une autre philosophie et une autre façon de voir les choses. Alors, ils veulent entendre des choses agréables, comme vous aurez des baisses d'impôts. Hein? Vous aurez des baisses d'impôts. Ça va vous coûter moins cher. On va diminuer les taxes, on va diminuer différentes choses. On va augmenter les revenus tout en diminuant les taxes. Peut-être augmenter la dette un peu, mais ça, on verra plus tard. Ce qu'on appelle pelleter en avant les problèmes, exactement. Et vous allez recevoir des chèques. Non seulement on va baisser les impôts, mais vous allez recevoir des chèques. On a entendu ça dernièrement. Et vous aurez tout ce que vous désirez, sans que ça vous coûte rien. Et sans que vous ayez d'efforts à faire. On sera le bon gouvernement que vous attendez depuis si longtemps. C'est exactement le scénario. Je caricature un peu, mais c'est tristement la vérité. C'est tristement la réalité qu'on a connue. Pas d'efforts à faire. Un peu comme la ville de Rome, l'Empire romain. À un moment donné, les gens ne travaillaient plus. Le principe était lancé. Les gens disaient « du pain et des jeux ». Donnez-nous quelque chose à manger sans qu'on ait d'efforts à faire et permettez-nous d'aller aux jeux à Rome pour s'amuser. C'est exactement ce qui se passe dans notre société. Comme ici au Canada, on ne produit presque plus rien. On fait produire à l'extérieur et nous, on pense qu'on va être capable de vivre comme ça sans aucun problème et sans avoir d'efforts à faire. On est rendu à un point de jonction très important dans ce sens-là. Alors, les gens attendent plus du gouvernement, croient ce qu'on leur dit, ne veulent pas et de moins en moins faire d'efforts. Ça, c'est Alice au pays des merveilles. Comme si tout allait tomber comme par miracle. Mais ce qui arrive, c'est que peu de temps après une élection, c'est la désillusion. Chaque fois, c'est la déception. Parce que les problèmes qu'il y avait sont encore là. Et il y en a d'autres qui s'ajoutent. Ça, c'est l'histoire humaine. Encore une autre histoire décevante de gouvernement humain qui remplace un autre gouvernement humain. Et on s'en va dans le même canal. Dans le gouvernement du monde de demain, c'est pas les gens qui vont diriger. Ils n'auront pas ce souci-là. Et quand ils vont voir le résultat qui sera apporté, ils vont apprécier. Ils ne perdront plus de temps à se chicaner, à se chamailler, puis à vouloir avoir des partis politiques et tout ça. Imaginez-vous comment les gens seront en paix. Pas avoir toutes ces analyses pour dire « lui a raison, lui a tort, on va faire ci, on va faire ça », a pu finir sur les réseaux sociaux et à la télévision. Ça sera terminé. Le gouvernement va savoir quoi faire. Ça sera des solutions justes. Le Christ sera en charge et nous serons ses assistants. Nous aurons été transformés, nous serons devenus tout à fait puissants. Et la base solide, immuable de cette nouvelle société, ce sera la loi de Dieu. Et elle ne changera jamais. C'est une loi qui n'est pas conforme au désir humain. Hein? C'est conforme à la sagesse de Dieu. Une sagesse formidable. Ce ne sera pas les caprices humains ou ce ne sera pas des petits groupes d'agitateurs ou de manifestants qui vont faire pression pour que les choses soient faites autrement ou que les lois changent. Pas du tout. Les lois vont être justes et les gens vont l'apprécier. Les gens vont aimer ces choses-là. Et la loi sera entièrement, comme elle l'est, conforme à la loi de Dieu, à la sagesse de Dieu. Dans l'ancienne nation d'Israël, Dieu avait établi une monarchie, établi un roi parce que Israël avait demandé un roi. Dieu leur a donné le roi. Mais c'était pas une monarchie comme on voit dans les nations du monde. C'était pas une monarchie absolue. Le monarque ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Je vous donne juste un exemple. Vous vous rappelez quand le roi Achab a voulu avoir un terrain qui était proche de son palais. Il a été obligé d'aller négocier avec Nabob pour acheter son terrain. Nabob n'a pas voulu lui vendre, mais le roi n'avait pas le choix parce que si ça avait été un monarque du monde, il aurait pris le terrain. Il ne l'a pas pris, il fallait qu'il négocie, il fallait qu'il demande à son voisin de lui vendre son terrain. Même s'il était roi, là. Ça a mal été après parce que sa femme, elle, a agi autrement, elle a fait tuer le voisin pour être capable de s'emparer du champ, mais ça, c'est autre chose. Mais le roi devait respecter la loi fixée par Dieu. Il y avait des choses qu'il pouvait faire, le roi, puis il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Allez à Deutéronome chapitre 17, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 17. Bien sûr, quand on regarde l'histoire d'Israël, ça n'a pas toujours été suivi. Pas souvent même. Ça a été suivi par très peu de rois et pas au complet. Par exemple, le roi ne devait pas accumuler pour lui-même de grandes richesses. C'était clair. Il ne pouvait pas essayer d'avoir le plus de chevaux possible, parce que ça, c'était pour faire la guerre avec les voisins. Et il ne pouvait pas avoir plusieurs femmes non plus. Ça, c'était les restrictions de la monarchie que Dieu avait données. Deutéronome 17, versets 16 et 17. Les règles que Dieu a données au roi d'Israël. Mais comme je vous dis, ça n'a pas toujours été suivi, même très rarement, et pas complètement. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, parce que ça allait inciter à faire la guerre. Qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. En fait, le roi devait compter sur Dieu pour protéger la nation, et non pas sur le nombre de chevaux. C'est ça. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Alors voyez-vous, il y avait des règles spécifiques. Après, il dit, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi. Le roi devait s'asseoir puis prendre sa plume et puis écrire chaque loi. Il devait l'écrire pour lui-même. Qu'est-ce qui nous est demandé? De faire des études de Bible chaque jour et d'écrire pour nous ces choses-là, pour l'approfondir, pour faire les liens qui s'imposent, pour en être imprégné. Parce qu'on est de futurs rois. Cette directive-là s'applique à nous. Quand il s'assiera sur son trône, nous on se prépare à s'asseoir sur le trône que Dieu va nous donner. Il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, des Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Comme vous faites et comme je fais chaque jour. Il doit y avoir une partie de la journée qui est réservée à apprendre les lois de Dieu, à les revoir, à les approfondir, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Voyez-vous? Je vous mentionne ça parce que ça s'applique à nous. Puis ça me fait tellement plaisir quand je vois des gens qui ont leur cahier de notes et puis qui viennent avec ça, puis qui parfois ont des questions à partir de ça. C'est parce qu'ils ont fouillé. Et quand je vois leur Bible, où il y a des petites notes dedans, puis des choses soulignées, puis un peu de couleur, c'est parce qu'ils ont travaillé avec le livre de la loi. Ils sont en train de se préparer aux choses qui viennent. Formidable, chaque jour. C'est pas pour rien que Dieu dit dans Jérémie 10, 23, pas besoin de vous y reporter, mais dans Jérémie 10, verset 23, Dieu dit, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Voyez-vous, on a absolument besoin de l'inspiration de Dieu pour nos décisions, pour nos orientations, pour les choses à faire chaque jour. Nous qui sommes appelés, c'est la responsabilité que nous avons. Les gens du monde autour auront leur moment quand Dieu va les appeler. Pour le moment, ils ne comprennent pas ce qu'il nous est donné de comprendre. Parce qu'on est en train de mettre en pratique ces lois, Dieu nous révèle davantage. C'est le processus dans lequel nous sommes engagés. Et vous savez, le facteur de stabilité dans notre vie, c'est pas nos émotions. C'est pas nos goûts. C'est pas non plus ce que le voisin pense ou ce que les autres disent. Absolument pas. C'est la véritable sagesse qui vient de la connaissance et de la mise en pratique des lois de Dieu. C'est ça le facteur de stabilité dans nos vies actuellement. Et c'est ça qui sera le facteur de stabilité formidable dans le monde de demain. La même chose. La sagesse de Dieu va s'étendre sur toute la terre progressivement à mesure que nous enseignerons les choses que nous apprenons maintenant et que nous aiderons l'humanité à aller plus loin. Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. Qui va exactement dans le sens que je vous mentionne maintenant. Proverbe chapitre 3. Lisons d'abord le verset 7. Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne pense pas que tu as raison et que tes idées sont bonnes. Valide-les auprès de Dieu. Et ça, c'est une chose qu'on apprend à développer de plus en plus, de lui soumettre tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à décider, nos projets, ce qu'on a à faire au cours de la journée, de les valider auprès de lui et lui demander de nous guider dans ce qu'on a à faire. Exactement. Alors, il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Être sage à nos propres yeux, c'est de faire comme on pense, spontanément. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Alors, voyez-vous, ça, c'est la démarche initiale, là. Rejeter ce qui est mauvais dans notre vie pour être proche de Dieu, pour que Dieu nous inspire et qu'il nous donne sa sagesse. Alors, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Maintenant, regardez juste le verset précédent, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et ça, c'est une chose qu'on apprend avec le temps. Au début, dans l'Église, on le reconnaît dans les choses les plus graves qu'on a à décider ou à faire. Mais il dit, reconnais-le dans toutes tes voies, dans tout ce que tu as à faire. Demande-lui de t'aider, d'être avec toi. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça, c'est de marcher avec Dieu, de lui parler constamment de nos choses. Bien sûr, il y a notre prière officielle le matin avant de commencer la journée où on prend plus de temps pour lui exprimer notre reconnaissance et lui demander de bénir l'œuvre et tout ça, et si les gens ont besoin. Mais au cours de la journée, on reste en contact avec lui, mentalement, parce qu'on peut n'importe quand lui parler, lui demander de nous aider à réagir comme il faut, selon les circonstances. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La journée sera beaucoup plus productive et plus efficace. Alors, je reviens à ça. Les prophéties se réalisent sous nos yeux, on le voit. Puis comme c'était mentionné tantôt dans la sermonnette, c'est frappant et c'est attristant de le voir, mais en même temps, on sait que parce que c'est comme ça, la fin est proche. En même temps, il y a un aspect positif dans le sens que la délivrance s'en vient. Et rapidement, de toute évidence, le retour du Christ, il est proche. Et ça, c'est un encouragement. Et Dieu nous donne la fête des tabernacles, comme ça a été mentionné au début de la fête, pour qu'on mette de côté nos problèmes, les laisser chez nous, les mettre sur la tablette et célébrer la fête. Autrement dit, s'imprégner des belles choses qui nous attendent, que Dieu a mis dans sa parole, pour que ça nous fortifie, de laisser de côté nos préoccupations et les turbulences du monde. Et j'aimais ça entendre dans un sermon au début de la fête. Pourquoi écouter les nouvelles durant la fête des tabernacles? Ce sont de mauvaises nouvelles, vous le savez. Ils vont être encore mauvaises. Et moi, j'ai mis ça en pratique, puis j'haïs pas ça du tout. Je vais le dire positivement, j'aime ça. Parce que ça nous garde l'attention sur les belles choses dont on nous parle. Et les belles choses qu'on voit dans nos études bibliques à la chambre. Et c'est ça le sens de la fête. C'est pas de laisser notre cœur en arrière puis nos préoccupations en arrière. Les nouvelles du monde, on sait qu'elles sont mauvaises. Je vous apprendrai rien, mais restez à la fête. Restons à la fête avec Dieu pour qu'on s'imprègne de sa présence, de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle que Dieu nous donne de goûter d'avance en vivant la fête des tabernacles. Parce que ça représente le temps où toute la terre sera un peu dans la circonstance où on se trouve, où ce sera paisible, où il y aura des interrelations entre les gens qui seront bonnes, agréables, amicales, remplies d'affection. Vous irez voir dans Néhémie. Dans Néhémie, cet homme-là de Dieu a donné des directives. Lui et les Lévites ont donné des directives au peuple. Néhémie chapitre 8. Je pense que ça vaut la peine qu'on y aille. Néhémie chapitre 8. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, ces gens-là, ces Israélites-là, avaient été en captivité. Et là, ils étaient revenus pour repartir la nation. Et ils arrivaient de périodes de vie très difficiles. Donc, il y avait une tristesse avec eux. Mais regardez ce qu'il est dit dans Néhémie 8 et le verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils retrouvaient la loi de Dieu. Ils allaient donc à Jérusalem et ils retrouvaient leur identité, l'espoir. Mais il dit, non, gardez pas la tristesse de ce que vous aviez avant, là, de chez vous. Laissez ça de côté. Vous êtes à la fête de Dieu. C'est ce qu'il leur disait ici et ça s'applique à nous. Et regardez le verset 10. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses. Et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Et c'est formidable, je vois ça ici, les cadeaux que les gens se font, les invitations à manger, même à aux chambres et tout ça, c'est la fête, c'est la famille de Dieu, c'est l'encouragement qui se multiplie d'un à l'autre par l'Esprit de Dieu. Il dit, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Maintenant, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est le dernier bout de la phrase. Ne vous affligez pas. Et c'est pour ça que je vous dis, ne gardons pas les préoccupations de chez nous. On reprendra nos situations quand on retournera, avec l'aide de Dieu, puis la force qu'il nous aura donnée durant la fête. Regardez ici, la joie de l'Éternel sera votre force. Ça, cette petite phrase-là, là, elle est puissante. Il dit, célébrez la fête comme vous devez la célébrer, vous en tirerez de grandes bénédictions, parce que la joie de l'Éternel sera votre force. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la joie de l'Éternel va vous fortifier, va vous aider, va vous supporter. C'est quoi la joie de l'Éternel? C'est la joie encourageante du fait de le connaître. Et plus on s'approche de lui, plus on le connaît. C'est la joie de travailler à lui plaire. Comme un fils, des fois je dis ça à Dieu dans mes prières, donne-moi de te faire plaisir comme un fils doit faire plaisir à son père. Tu sais, exactement. Alors c'est de travailler à lui plaire. La joie de l'Éternel, c'est de célébrer la fête. De tout cas, il nous a donné ça comme un superbe cadeau pour nous nourrir, pour nous fortifier pour les mois d'hiver qui s'en viennent, en attendant la Pâque et les fêtes du printemps. De goûter, d'anticiper ce qui vient. Et d'anticiper la grande délivrance qui sera bientôt accordée à toute l'humanité, de goûter les bénédictions qu'il nous donne. Alors voyez-vous, à ses serviteurs fidèles, et j'ajoute fermes, à ses serviteurs fidèles et fermes et persévérants, Dieu donne une garantie absolue tellement encourageante, une garantie de succès, d'arriver au but. Et ça ne sera pas par votre force, ni par la mienne. Faut pas faire cette erreur-là de penser que ça va être par nos forces. C'est toujours par la force de Dieu, en toute chose. Reportez-vous un dernier verset à Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Regardez ce qui est dit ici. Apocalypse, chapitre 3, le verset 11. Je viens bientôt. Ici, j'arrête. Le bientôt, ça s'adressait à qui? C'est écrit depuis longtemps, ça. Très longtemps, ce passage-là. Mais le fait qu'il dit « Je viens bientôt », ça s'adresse à ceux qui sont tout proches du bientôt. Ceux qui sont au temps de la fin, juste avant le retour de Christ. Il dit « Je viens bientôt ». Retiens ce que tu as. Et la première chose à retenir, c'est de retenir les enseignements qu'on a reçus, ce que Dieu nous a donné de connaître, les responsabilités qu'il a mis sur nos épaules de vivre selon ses lois. Retiens ce que tu as, ce qui t'a été enseigné, ce qui t'a été montré. Ne le perds pas. Reste ferme dans la connaissance de Dieu et dans le fait de vivre selon ses lois. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Parce qu'il y a toujours un risque de perdre la couronne. Mais je vais plus loin. Je vais vous montrer autre chose ici. Parce que retiens ce que tu as, ça comprend aussi votre couronne. Vous vous êtes peut-être jamais arrêté à le voir dans ce sens-là. Mais retiens ce que tu as, c'est que Dieu a déterminé de donner une couronne de vie éternelle, d'administration, de service aux gens dans le monde de demain, à ceux qui sont fidèles. Mais comme il est le Tout-Puissant, pour lui, c'est comme si c'était réglé. La seule différence, c'est nous. Et c'est là qu'on doit prendre la décision ferme d'être proche de Dieu. Mais ce qui est fascinant dans cette déclaration-là, il dit dans le fond, retiens ta couronne parce qu'elle t'attend de façon assurée. Parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le gouverneur de l'univers et je t'ai appelé à ce moment-ci de l'histoire, malgré les étapes difficiles que ça représente. Il dit, je vous ai appelé pour vous donner ce que j'ai en tête de vous donner. De vous donner le règne sous le Christ dans le monde de demain. Alors, à nous de tenir bon. Avec beaucoup de reconnaissance, de tenir bon avec son aide. Pour le reste de cette fête, moi je vous dirais, concentrons nos pensées sur notre grand Dieu et sur le merveilleux monde qui vient très bientôt.